rebâtissent intérieurement. Des fois, j'ai l'impression que je tomberais en mille morceaux. Hein? C'est dommage qu'on retienne nos cœurs comme ça. Hein? Quand Jésus touche nos cœurs, parce qu'il nous aime, il nous a donné un cœur. J'ai aimé beaucoup ça dans le chant, Messie de mon cœur. Messie de mon cœur. Seigneur de ma vie. C'est quelque chose, hein? Pourquoi on aime tant la louange? Hein? C'est vraiment un moment privilégié du dimanche matin. De venir ensemble comme ça, puis d'avoir des chants comme ça, des temps où on s'arrête, puis pourquoi que la louange vient nous chercher autant? Savez-vous pourquoi? La raison principale? On a été créés pour louer Dieu. C'est bon, ça. J'aime ça. Là, il y a un élément qui vient d'aller avec l'élément précédent qui se complète bien. Ouais. Exactement ça. Moi, c'est ça qui se passe dans la louange. Ouais. Et là, le besoin que notre cœur a, là, pourquoi il a été créé, là c'est comme... On dirait que le dimanche matin, dans la louange, en tout cas, je dis pas que c'est impossible, là. Faut jamais faire des grandes déclarations. Mais c'est dur de pas aller dans notre cœur quand on chante. Puis les chants nous interpellent. Et là, on dirait qu'on laisse l'Esprit de Dieu caresser, rencontrer notre cœur. Et vous savez, Jésus a été envoyé, il a accepté de venir, il a été crucifié, pas parce qu'il voulait habiter dans notre tête, mais il voulait être le Messie de nos cœurs et le Seigneur de nos vies. Ça passe par le cœur et le reste suit après. Tout comme on ne veut pas être aimé dans la tête par l'autre, on veut être aimé au niveau de notre cœur. Hein? On ne veut pas que l'autre dise simplement, « Je t'aime. Bien chanceux, je suis encore avec toi. Je t'ai fait ton repas. Alors, charme-moi pas. » Moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça. hein? Ça fait-tu du bien quand il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre cœur? C'est fantastique. Et ce matin, bien, je conclus sur quatre messages que j'ai voulu vous apporter cet été. Dans le cadre de l'été, la série était finie dans Galates. Et en fait, chacun des sujets tournait autour du bonheur. Et ce matin, bien, c'est un peu comme la conclusion de cette petite série de quatre messages. Et ce matin, ce que j'ai comme titre, en fait, c'est le vrai bonheur. Parce que le premier message touchait un peu, est-ce que la vie peut nous apporter le bonheur? Et est-ce que vivre des expériences de vie peuvent vraiment faire une différence dans notre vie, puis que là, on arrive à tout à coup là, saisir la raison pour laquelle on est sur la terre? Et là, il y avait le témoignage de cet homme qui, comme il a dit, il a eu l'occasion de mourir et de naître en ayant une seconde chance, parce qu'il aurait dû mourir dans l'avion à cause des circonstances, les moteurs qui étaient hors d'usage et tout ça, puis c'était comme quasiment prévisible qu'ils mourraient tous. Et finalement, non, le pilote a réussi à, on pourrait dire, pas atterrir, parce que c'était pas sur le sol, amerrir sur la rivière. Et puis, là, il comptait son témoignage, puis il avait appris trois leçons de vie. Ah, des belles leçons, des belles choses qu'on peut apprendre. La vie peut nous enseigner des très belles choses. Puis ça peut amener des grands changements dans notre vie, devenir de matérialiste, à devenir plus humain, puis ainsi de suite. Puis là, lui, par rapport à son rôle, par exemple, de mari, de père, puis ça avait vraiment eu une influence. C'est super de découvrir ces choses-là. Mais en même temps, Il avait passé à côté de la leçon la plus importante qu'il aurait dû apprendre. Et jamais dans son témoignage, il parle de la place que Dieu aurait dû occuper dans sa vie. Et que là, il venait de comprendre qu'on n'est pas ici pour l'éternité, que notre vie est très brève, et qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et là, j'ai compris que ma vie n'allait pas dans la bonne direction parce que Dieu n'était pas dans ma vie. Et là, il est venu à Christ. Ça aurait été un témoignage extraordinaire. Parce que c'est ça le but de la vie. Hein? C'est de rencontrer Christ et de le connaître. Le plus tôt, le meilleur. Hein? Je me rappelle de témoignages de personnes qui ont connu Jésus dans l'âge mûr. Et là, ils disent souvent ceci. Ah, j'aurais tellement aimé ça, le connaître plus jeune. Connaître le Messie de mon cœur, le Sauveur de ma vie. Alors non, le bonheur ne se trouve pas dans la vie, dans les circonstances de la vie. Le deuxième message, bien, c'était encore là. Est-ce que le bonheur se trouve dans l'argent, dans le fait de posséder des choses, d'avoir du confort et des économies et une sécurité face à demain, et donc pas d'inquiétude? Et là, non. L'argent est plutôt comme un esclave. L'argent est plutôt comme un durcisseur. Vous savez ça? L'argent durcit les cœurs au lieu de les ouvrir. Et là, j'avais donné l'exemple du vidéo que quelqu'un disait, ben partagez-le, parce qu'en le partageant, eh bien là, vous allez avoir plus de bonheur que si vous le gardez pour vous autres-mêmes. Et à cet égard-là, il a raison. Pourquoi? Mais Jésus lui-même l'a enseigné. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et oui, effectivement, ceux qui sont généreux, ceux qui sont détachés de l'argent, vont être effectivement plus heureux. Mais est-ce suffisant? Non. Parce que comme j'ai montré, ce que Jésus disait, il disait, oui, détachez-vous de l'argent. Et oui, donnez aux autres, à ceux qui en ont le plus de besoin. Mais en même temps, Jésus disait aussi, attachez-vous à moi. Comprenez? Donc, ce n'est pas juste suffisant d'avoir bien de l'argent, ça c'est évident. Mais ce n'est pas suffisant non plus que de le donner et d'être généreux. Même si, oui, c'est vrai que c'est meilleur que de le garder tout pour soi. Mais ce qui est plus important, c'est de s'attacher à Jésus, de déconnecter notre cœur de l'argent, de ce que l'argent peut m'apporter, de sécurité à mon cœur, de valeur sûre, de bonheur et d'abondance et de facilité et tout ça. Puis là, mon cœur est attaché à ça pour dire non, mon cœur, Seigneur, détache-le de ces choses-là. Puis là, est-ce que mon cœur peut s'attacher à toi? Et ça, c'est ce que Jésus veut faire. Jésus veut nous attacher à lui. Il veut que notre cœur soit complètement satisfait en lui. Pourquoi? Parce que notre cœur ne peut pas être satisfait autrement. Seul Jésus a le pouvoir, la capacité de satisfaire un cœur. Rien d'autre. Ni les leçons de vie, ni la générosité qu'on pourrait avoir autour de nous. Et à travers ça, faire des belles choses, oui, qui plaisent à Dieu. Mais si notre cœur n'est pas attaché au Seigneur, c'est insuffisant. C'est même malheureux. Et le dernier message, lui, encore là, touchait à un autre aspect qui était, alors on a vu la vie, l'argent, quel était l'aspect du dernier message apporté récemment? C'était-tu la semaine passée? Oui, c'est ça, c'était la semaine passée, hein? OK. L'amour. Goûter à l'amour avec un grand A. Vous savez, C'est un privilège dans la vie d'avoir eu des parents, par exemple, qui m'ont aimé, qui m'ont chéri. Extraordinaire. Si vous avez eu ça, là, vous êtes vraiment choyé. Ou si vous avez eu quelqu'un où vous vous êtes vraiment senti aimé, là. Wow! Cette personne-là, elle m'a vraiment aimé. Puis, ou elle m'aime encore. Et on a vu un témoignage extraordinaire. C'est rare qu'on voit un amour de cette catégorie-là, de cette envergure-là, d'un homme qui a décidé de rester avec sa femme malgré le fait là, qu'elle était rendue pas capable de rien faire. Mais il l'aime. Puis il n'est pas question pour lui de la laisser tomber ou de l'abandonner. Et là, il prend soin d'elle. Il fait toute sa vie tourne autour maintenant de sa femme. Mais ce qui est triste, c'est que si je ne connais pas cet amour-là de Jésus, encore là, je ne pourrai pas connaître le vrai bonheur. Peut-être que je peux me satisfaire de cet autre amour humain, mais mon cœur a été créé pour connaître Jésus. Et là, d'avoir avec lui cette relation d'amour avec un grand A. Alors, c'est pour ça que ce matin, j'avais pensé vous présenter un petit vidéo de quelqu'un qui semble avoir eu les trois. C'est-à-dire, il y a eu toute une vie, puis beaucoup de leçons de vie, puis des circonstances qui l'ont amené à faire des grands changements dans sa vie. Et il a appris beaucoup de choses. Un homme aussi qui a eu de l'argent, et en a eu beaucoup d'argent, et en plus, il a été très, très, très généreux avec son argent. Donc, il l'a partagé, puis il le fait encore. Il est toujours vivant. Un Québécois. Mais aussi un homme qui connaît l'amour avec un grand A dans son couple. Et en plus, un homme qui a fait un monologue sur le vrai bonheur ou sur le bonheur. Un humoriste. Yvon Deschamps. Aimeriez-vous voir le petit vidéo? 5 minutes, parce que c'est comme un reportage sur sa vie un peu, puis là, montrait différents monologues qu'il a fait, dont celui sur le bonheur, puis là, il lui pose des questions par rapport à lui, justement, face au bonheur, et ainsi de suite. 5 minutes, un beau petit vidéo. Aimeriez-vous ça, voir ça? Oui? Malheureusement, ça ne marche pas en arrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que chez nous, ça se passe bien. Puis on arrive ici, puis ça ne marche pas. Il y a des annonces, puis pas moyen de le mettre là où on veut, puis ça revient au début, puis il y a toutes sortes de problèmes, en tout cas. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Chez nous, ça doit être sanctifié, je ne sais pas. Puis ici, ben, c'est comme ça. Fait que là, même le petit vidéo à Jocelyn, ça n'a pas marché un matin. Là, fait que c'est comme ça. Mais si on regarde la vie d'Yvon Deschamps, et c'était frappant de voir là, que c'est quand même un homme, tu vois, un homme de cœur. Hein? Un homme qui veut communiquer quelque chose de bien à son entourage. Puis, son monologue sur le bonheur, il l'a fait dans les années 60. Donc, ça fait longtemps qu'il a fait ça. Puis, il dit qu'il n'a pratiquement jamais rien apporté de modification, tellement que, selon lui, il était comme à point. Puis, dans ce petit vidéo-là, qui montre sur le bonheur, bien, tu sais, pour lui, dans le fond, il dit que le bonheur, une des grandes caractéristiques du bonheur, c'est que le bonheur, il passe. Fait que c'est comme il ne reste pas. Puis il dit, le bonheur, lui, ben il regarde. Puis là, il regarde, puis là, il dit, quand il voit que c'est correct, ben là, il s'installe. Mais là, s'il voit que ça chicane, ou qu'il y a des tensions, ou que ça crie, ou même, il dit, s'il y a des enfants, puis les enfants sont bruyants, il dit, le bonheur, il s'en va. Il n'aime pas ça, le bruit. Mais il dit, si les enfants sont tranquilles, là, il aime ça. Puis il va rester là. Vous voyez, c'est un peu satirique comme humour. Puis là, il dit même, il dit, ma femme, elle a déjà vu le bonheur. Mais elle dit, le bonheur, il n'est pas resté là longtemps. Parce que c'était justement dans la famille aisée. Puis là, dans la famille aisée, bien là, il dit, tant que M. Aisé était là, ça allait quand même pas pire. Mais il dit, ce qui était dommage, c'est que le bonheur n'était jamais dans la même pièce, parce qu'ils avaient une grande maison. Fait qu'il dit, le bonheur, il n'était pas dans la même pièce où les gens y étaient. Il dit, ça, c'est dommage. Mais il dit, un jour, quand M. Aisé est décédé, bien, il dit, le bonheur, il n'a pas aimé ça. Puis il est parti. Parce qu'il a vu que pendant que lui était en train de mourir, les autres membres de la famille étaient en train de chicaner pour savoir comment est-ce qu'il aurait son argent. Puis il dit, le bonheur, il n'a pas aimé ça. Il a pris la porte d'en arrière. Il est parti, puis ils ne l'ont jamais revu. Alors, c'est sûr qu'ils essayent de faire réfléchir à travers ça. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand, dans l'entrevue, on lui demande à un moment donné, « Mais toi, Yvon, te considérais-tu comme quelqu'un d'heureux? » Savez-vous sa réponse? Il a dit non. Il dit, « Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont l'habileté d'être heureux. » Il dit, « C'est un don, ça. Un don d'être heureux. » Mais il dit, « Moi, je ne l'ai pas. » Puis il part à rire, son rire nerveux un peu, là. Hein? Un rire nerveux, là. Puis là, il a rajouté ceci. Il dit, « Moi, je vis des petits bonheurs. » Puis il dit, « Quand que, là, je vis des petits bonheurs, parce que vous savez, le bonheur, il passe, comme il a dit. » Et là, il dit, « Là, j'essaie d'y vivre, là, ces petits bonheurs-là. Puis j'essaie d'emmener ma famille à les voir, ces petits bonheurs-là, puis à les vivre pleinement. » Mais il dit, « Moi, je ne sais pas. » Puis là, c'est son expression à lui, là. Il dit, « J'ai des démons en dedans de moi. » Vous savez, un de ces démons-là, c'est quoi? Il a une angoisse extrême face à la mort. Il dit, ça, c'est Yvon Deschamps, un humoriste qui est comme un prophète au Québec, que les gens boivent ses paroles comme si c'était des paroles d'or, des paroles de vie, et c'est un homme qui, lui-même, de son propre vivant, à la fin de sa vie, dit qu'il est aux prises avec des démons en dedans de lui. Puis un de ces démons-là, c'est son angoisse face à la mort. Savez-vous pourquoi? Parce que le vrai bonheur, le bonheur qui dure, le bonheur qui ne fait pas juste de passer, ce bonheur-là, il a un nom. Et son nom, c'est Jésus. Lui, Jésus, est le vrai bonheur. Maintenant, vous me dites, « Oui, mais Benoît, je ne me sens pas toujours heureux. » Savez-vous pourquoi? C'est parce que Jésus n'est pas toujours le Messie de notre cœur. Moi, j'étais un homme qui était très, très nerveux, angoissé. Une des raisons pourquoi j'étais très, très nerveux et angoissé, c'est parce que je croyais, mon cœur croyait que tout était entre mes mains. Donc, il fallait que je fasse attention. Il fallait que je sois discipliné. Il fallait que je pense d'avance. Il fallait que je prévoie l'imprévisible. Il fallait que je réfléchisse tout le temps. Parce que la vie est parsemée de toutes sortes de nids de poules, de gros nids de poules et d'énormes nids de poules. Puis, il fait noir. Puis, il mouille. Puis, là, c'est quasiment sûr, en plus, que je vais les attraper. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour les éviter? Fait que dans le fond, mon cœur était toujours sur une tension. C'était comme ça que je vivais. Puis là, tout à coup, quand Jésus... quand je dis qu'il n'est pas le Messie de notre cœur, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas notre Sauveur, là. Mais malheureusement, des fois, Jésus n'est pas celui avec lequel notre cœur est connecté. Puis là, c'est comme on est préoccupé par l'argent, on est préoccupé par les relations, on est préoccupé par la vie. Puis là, notre cœur a de la difficulté avec ça. Pourquoi? Parce que notre cœur a été créé pour se reposer en Jésus. Maintenant, quand je vis de l'angoisse, savez-vous ce que je fais? À chaque fois que je fais ça maintenant, là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur. Puis moi, je sais qu'est-ce qui ne va pas bien dans mon cœur quand ça ne va pas bien. Alors maintenant, je peux comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, maintenant, le réflexe que j'ai, un peu comme François, tu disais, on est porté à vouloir faire les choses par nous autres-mêmes, à prendre les choses en main. Et ça, c'était le réflexe de mon cœur avant. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, puis c'était comme ça. Puis là, mon cœur arrivait à se calmer un peu quand là, j'arrivais à trouver des réponses à mes questions, puis tout ça. Mais là, maintenant, la chose que je fais, parce que je continue à vouloir faire les choses que Dieu me demande de faire, ça, je comprends ça, mais maintenant, c'est de dire, Jésus, est-ce que tu vois mon cœur présentement? Vois-tu comment que là, je suis inquiet? Est-ce que tu es là pour moi? Est-ce que je peux me reposer sur toi présentement? Je peux-tu te donner ça? Est-ce que tu pourrais le prendre, cette chose-là, ou cette situation-là, ou ce besoin-là? Et savez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Pas de problème. Oui, Benoît. Mon cœur entend ce message-là. Oui, Benoît, je suis là. Je vais prendre soin de ça. Tu peux compter sur moi. Et là, tout à coup, et là, Jésus est le Messie de mon cœur à ce moment-là. Et vous l'avez expérimenté, je suis convaincu. Souvent dans des circonstances, face à des situations qui vous dépassent, au moment donné, on le sait, là, qu'on est rendu au bout du rouleau, on a fait toutes les portes, on a appelé tous les téléphones qu'on peut, on a fait toutes les démarches qu'on peut. Puis là, tout à coup, on arrive. Et puis là, maintenant, on va dans la prière, puis on crie à Dieu. Des fois, on crie d'une façon désespérée. Des fois, on pleure. Des fois, on est en mille morceaux. Mais là, on se tourne vers Jésus. Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, Jésus répond. Fait que si des fois, on n'expérimente pas le vrai bonheur qui est en Jésus, c'est simplement parce que nos yeux sont en train de regarder autour de nous. Et si vous êtes comme moi, si vous avez cette même tendance intérieure, et là, vous commencez à réfléchir, à essayer de voir tous les scénarios, puis toutes les possibilités, tout ça, ben là, c'est de l'angoisse qui vient dans votre cœur. Et oui, le bonheur, à ce moment-là, n'est pas là, parce que c'est la pression qu'on sent sur notre cœur. Mais quand on se tourne vers Jésus, puis qu'on lui confie notre cœur, on lui confie notre vie, on lui confie les circonstances dans lesquelles on est, on lui confie ce qui est injuste, on lui confie ce qui dépasse notre entendement, on lui confie ce qui est au-dessus de nos forces. Tout à coup, Jésus prend la balle. Et là, c'est la paix qui s'installe dans nos cœurs. Ce que Paul dit qui est une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, ça ne veut pas dire que nos circonstances changent, mais il y a quelque chose qui a changé. Et ce quelque chose-là, c'est maintenant Jésus s'est installé. Et là, notre cœur est connecté avec lui. Là, ce n'est plus juste des vérités qu'on a ici ou des problèmes qu'on a là, mais maintenant, c'est entre les mains du Seigneur et moi, je suis attaché à Jésus. Et c'est un peu ce qu'on voit dans Colossiens 2, 11 à 23, où ce qu'on voit dans ce texte-là, puis je vais le lire progressivement, on va le parcourir ensemble rapidement. Mais ce qu'on voit dans ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, dans le sens que Jésus nous a accordé un salut qui est complet, il nous a accordé un pardon qui est complet, et il nous a accordé aussi une victoire qui est complète. Il ne nous manque rien. En Jésus, là, on a tout. On a tout ce qu'on a besoin. Je vais prier avant de lire Colossiens 2. Seigneur Jésus, ce matin, on veut se tourner vers toi. C'est toi, Seigneur, qu'on voudrait que nos cœurs voient ce matin, que même notre entendement, notre esprit puisse comprendre comment toi tu peux combler nos cœurs, comment toi tu es suffisant entièrement. On perdrait tout le reste qui peut exister sur cette terre que tu nous offres avec grâce. On perdrait même la personne la plus importante dans notre vie sur la terre, nos enfants, ou notre travail, ou même notre santé. Mais c'est Jésus, si on t'a, toi, notre cœur peut être complètement satisfait. Et Seigneur, ça, c'est pas de ce monde. Il y a juste toi qui peux faire une telle œuvre dans nos cœurs. Parce que tout en nous aussi crie non, 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 je veux garder ça, je veux ça, je veux ça, j'ai besoin de ça, et ainsi de suite, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, en réalité, toi, tu es suffisant pleinement. Est-ce que, Seigneur, tu peux nous aider ce matin encore à nous tourner vers toi, à tourner nos cœurs vers toi, à te demander, Jésus, rencontre mon cœur. Moi, je ne peux pas y arriver par moi-même. Moi, je ne peux pas m'accrocher à toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce. Me la donnerais-tu? M'aiderais-tu, Seigneur Jésus, à enlever les soucis de mon cœur, à enlever les choses qui me tracassent, à enlever les choses qui m'empêchent de te voir, à enlever, Seigneur, les désirs que j'ai qui sont des désirs secondaires, pour que, Seigneur, mon cœur, tout à coup, ait le réflexe de te voir, de te regarder, de venir à toi, tel que je suis, les mains ouvertes, en te demandant de toi de me rencontrer. Seigneur, est-ce que tu peux, ce matin, permettre à notre cœur de t'accueillir comme le Messie, comme celui qui peut vraiment prendre soin de chacun de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Et voici le verset 11 de Colossiens 2. Paul dit, « Étant uni à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie. » Et là, il dit, « Dans le dépouillement du corps de la chair, qui est ici, il fait référence à la nature pécheresse, avec tous ses instincts mauvais, ses penchants mauvais de vouloir aller vers plein de choses, sauf de se confier en Dieu. » Alors, il dit, « Ça a été dépouillé, ça, par Christ, par la circoncision de Christ. » Alors, il parle d'une circoncision de cœur, naturellement, ici, et non pas de celle que la main humaine pouvait accomplir, qui était extérieure sur le corps physique. Et là, il fait un parallèle maintenant en disant, OK, on n'est plus dans la circoncision dans l'Ancien Testament, mais par contre, ce qui s'est réellement passé, et là, il dit au verset 12, dans votre baptême, et là, il fait allusion à une autre geste qu'on pose, qui est physique, qui est extérieure, et qu'on a à l'occasion ici à l'Église, et la plupart d'entre vous avez été baptisés, mais il dit, dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, il y a une réalité physique à ça, tout comme la circoncision, mais la réalité la plus importante, tout comme la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle qui s'est passée véritablement au niveau de notre être intérieur, de notre âme, de notre cœur, de notre être spirituel. Et ici, il parle de cette union encore là avec Christ, en sa mort et en sa résurrection. Et tout ça, c'est fait comment? Par la puissance de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons en faire ça, là. Alors, il faut oublier ça. Il ne faut pas essayer de faire des efforts pour essayer de gagner la faveur de Dieu ou l'amour de Dieu ou quoi que ce soit de Dieu. C'est tout par Christ. C'est pour ça qu'il dit, au verset 11, « Étant unis à lui. » Et vous allez voir, il va répéter ça plusieurs fois. C'est notre union à Christ, et c'est par la puissance de Dieu que Christ peut faire une telle chose. Alors ça, c'est un des points très importants ici que Paul est en train de parler. Ensuite, je vais sauter tout de suite à l'autre point, qui est le pardon complet, qui est dans les versets 13 à 14. Et il dit ceci, « Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous, encore là, comment? En vous unissant au Christ, vous avez fait revivre, c'est-à-dire Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. » Alors, on a eu un salut complet, et ici Paul dit, on a un pardon complet. Comment? Notre union avec Christ. Autrement dit, Christ répond à tous nos besoins par sa puissance, par son œuvre à la croix, par cette union de cœur qu'on peut avoir avec lui. Et là, il dit au verset 14, « Il a effacé, ou un autre mot, ça serait, il a annulé l'acte aux mille articles qui nous accusaient. » car il mentionnait tous nos manquements à la loi. Et la liste était longue. Mais ça dit, Dieu a annulé cette liste-là, a annulé toute cette culpabilité-là, ces fautes-là, et il l'a cloué à la croix. Alors encore là, à cause de Christ, j'ai un salut complet et j'ai un pardon complet. Maintenant, on voit ici l'utilité de la loi versus l'utilité de la grâce dans ces deux versets-là. C'est très important. Et c'est pour ça que pour Paul, dans sa pensée, il n'est pas en train de vouloir nous encourager à retourner à la loi. Au contraire, parce qu'il montre ici, la loi, elle fait quoi? La loi, elle nous accuse. Comme il dit, il y avait une multitude d'articles qui nous accusaient, car ça mentionnait tous nos manquements face à la loi. Donc, la loi, tout ce qu'elle a le pouvoir de faire, c'est de nous accuser, de montrer en quoi on a manqué à Dieu. Et c'est essentiel, c'est très important. Vous savez, on ne peut pas venir à Christ et être uni à lui si je ne prends pas conscience que j'ai besoin d'un sauveur, que j'ai manqué à la loi de Dieu. Et Dieu ne nous met pas ça pour nous écraser, pour nous faire par exprès, pour être négatif vis-à-vis de nous. C'est la réalité, c'est la vérité. Alors, je ne pourrais pas, par exemple, aller voir mon médecin si je ne suis pas conscient que j'ai un problème. Donc, le fait que je prends conscience de mon problème, puis le plus tôt j'en prends conscience, le mieux que c'est si je vais voir mon médecin. C'est la même chose au niveau spirituel. Moi, j'ai déjà eu un de mes profs au cégep qui disait, « Benoît, arrête ça, dis pas ça. » Dis pas quoi? Mais ça, ce que tu viens de dire, j'ai dit quoi? Mais que t'es pécheur. Ah ouais? T'aimes pas ça? Ben non, dis pourquoi tu dis ça? C'est négatif. Ça va te décourager. T'es un jeune homme. Voyons donc, tu commences pas à te dire des affaires de même. J'ai dit, je comprends pas. Mais non, mais dis, pense-y, là. Pécheur, ça, c'est la religion, puis. Mais non, j'ai dit, hey, tu comprends pas pantoute. Moi, là, je suis heureux, là. Mais je suis heureux d'admettre que je suis un pécheur. Parce que quand j'ai vu que j'étais un pécheur, tout à coup, j'ai pu voir qu'il y avait quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Puis je savais ça, qu'il était mort sur la croix. Mais je n'avais jamais pris conscience qu'il était mort pour moi. Et là, quand j'ai pris conscience que oui, moi, j'ai failli à la loi de Dieu, j'ai déjà menti. J'ai déjà volé. J'ai déjà... Puis là, on l'a laissé longue. Mais là, hey! J'ai dit, moi maintenant, là... Puis une des choses que moi j'avais, c'était la peur de la mort. Jeune homme. Mais là, j'ai dit, j'ai plus peur de la mort. Moi, c'est comme... C'est enlevé de mon cœur, ça. Pourquoi? Parce que j'ai un sauveur. Tu comprends? Je suis pardonné. Tous mes péchés sont pardonnés. Et moi, je me rappelle de la joie immense que mon cœur ressentait de savoir que je suis complètement pardonné. Tout pardonné. Tout ce que j'ai fait, c'est fini. Jésus l'a pardonné. Alors, ça, c'est l'utilité de la loi. Mais naturellement, ce que Paul veut qu'on voit ici, c'est la plus grande utilité de la grâce. Comprenez? Parce que là, la grâce, c'est ça qui nous sauve. La loi nous tue, mais la grâce, elle nous amène dans les bras de Jésus. Elle nous amène à connaître Jésus comme sauveur personnel. Et ce qu'on a à faire une fois qu'on connaît Jésus comme ça, qu'on a eu ce salut complet-là, qu'on a ce pardon complet-là, que c'est acquis à cause de ce que Dieu a fait en clouant tout ça sur la croix, bien 1 Jean 1, 8-9 nous dit aussi, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, admettre que j'ai des péchés, admettre que j'ai déjà péché ou admettre que je pêche encore, ce n'est pas le problème. C'est plutôt l'inverse qui est le problème. C'est quand on ne les voit pas, nos péchés. Tu sais, ça dit dans Pierre, c'est Pierre qui dit ça, que parfois on peut oublier la purification de péchés qu'on a déjà fait avant. Et vous savez, ça, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre un poids énorme sur notre vie et sur notre cœur et sur notre capacité même de venir à Jésus. Parce que quand il y a de la culpabilité, on ne se sent pas à l'aise de venir à Jésus avec ça. Et c'est pour ça que là, ce que le Seigneur nous offre, c'est un plein pardon. Viens, confesse-moi ton péché, peu importe lequel il est. Et la dernière chose, et non la moindre, c'est une victoire complète. Et là, au verset 15, il dit ceci, « Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers entier. Et il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. » Vous savez, en Jésus, on a une victoire complète. On ne l'expérimente peut-être pas à chaque jour, mais elle est là pareil. Ça fait partie d'un des cadeaux que Jésus nous a donnés. Non seulement notre salut, non seulement notre pardon, mais aussi une victoire complète, parce qu'il l'a acquise à la croix. Et même ici, c'est cet exemple qui était utilisé, que quand un empereur avait conquis ses ennemis, eh bien, il traînait derrière lui le roi et ses sujets pour montrer qu'il avait été le plus fort et que maintenant, c'est lui qui régnait. Et Jésus utilise cette analogie-là, ou Paul l'utilise ici, pour montrer que c'est ce que Jésus a fait aussi. Il nous a acquis une victoire complète. Elle est à nous. Il veut nous la donner. Il veut qu'on la vive, qu'on l'expérimente. Vous savez, il y a un vieux cantique, puis là, j'espère qu'on peut le montrer. Il y en a peut-être plusieurs qui s'en souviennent. J'aimerais ça chanter ce matin pour terminer. Mais ça dit tout ici. Et moi, c'est un des premiers cantiques quand je suis venu au Seigneur, à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et je connais les paroles pratiquement par cœur. Mais ça dit ceci. « Veux-tu briser du péché le pouvoir? » La force est en Christ. Combien ont déjà chanté ce cantique-là? Wow! On se lève ensemble et on chante ça à notre Sauveur. OK? Et on le chante à notre cœur. Et on le chante au cœur de nos frères et sœurs. Et on le chante au cœur de ceux qui sont ici ce matin, qui ont besoin de venir à Christ pour justement goûter à un salut complet, à un pardon complet et à une victoire complète. Amen! Célébrons Jésus ce matin avec ce cantique-là. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout effet. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur. Le troisième, les dames. Veux-tu marcher triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. Force est dans le sang de Christ. Ensemble. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur. Les hommes, le dernier.
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Ensemble, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen.
Prions ensemble. Seigneur Jésus, est-ce que ta parole pourrait parler à nos cœurs ce matin? Est-ce que ce salut que tu as accompli à la croix, ce pardon, cette victoire, est-ce qu'elles sont pour moi aussi, Jésus? Est-ce que mon cœur les a reçues? Est-ce que mon cœur te connaît comme étant le Messie, le Seigneur de ma vie? Jésus, est-ce que je suis trop préoccupé par la vie? Est-ce que je suis trop dépendant de l'argent, des choses de ce monde? Est-ce que Jésus, je suis en train de rechercher l'amour dans les relations humaines et je suis insatisfait, mon cœur est insatisfait? Comment est-ce que ce matin, Seigneur Jésus, si je venais à toi tel que je suis, avec toutes ces choses-là de ma vie, comment est-ce que tu pourrais m'en libérer? Comment est-ce que tu pourrais changer mon attention, mon focus? Comment est-ce que tu permettrais à ce que mon cœur soit libre des préoccupations de ce monde, de ce réflexe de penser que si moi je m'en occupe pas, bien ça va aller mal. Il faut que je m'inquiète. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je gagne, il faut que j'aie de l'argent de côté. Il faut que si, il faut que ça, Seigneur. Comment est-ce que toi, tu pourrais satisfaire pleinement mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire, Seigneur? Est-ce quelque chose que tu voudrais enlever de ma vie ou de mon cœur qui permettrait justement maintenant à mon cœur de te recevoir comme Messie ou de te prendre pleinement et de m'accrocher pleinement à toi et même de goûter à ce salut complet, à ce pardon complet, à cette victoire complète que tu m'as déjà acquise à la croix? Qu'est-ce qui empêche mon cœur, Jésus, de le savourer pleinement? Est-ce que je peux t'en parler? Est-ce que tu es vraiment là pour moi? Est-ce que je suis quelqu'un d'intérêt, Seigneur Jésus, pour toi? Est-ce que tu te préoccupes de moi? Jésus, j'aimerais te remercier de ce que tu es vivant. Et j'aimerais te remercier de ce que tu es allé à la croix. Et tu as porté sur cette croix mes péchés personnels, tous mes péchés. Un grand nombre de péchés, Jésus. Et tu as payé le plein prix. Et je veux te remercier. Est-ce que mon cœur pourrait l'absorber, tout cet amour que tu as eu, Seigneur, à la croix? que quand tu es allé à la croix, tu n'étais pas allé là parce que tu avais un job à faire. Tu es allé là parce que tu voulais que je te connaisse. Tu voulais que je passe l'éternité avec toi. Jésus, tu es cet amour avec un grand A. Est-ce que mon cœur pourrait t'inviter et te laisser prendre soin de moi? Est-ce que je peux m'appuyer entièrement sur toi, Seigneur Jésus? Viens à mon aide. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Attire-moi à toi, Seigneur Jésus. C'est le désir de mon cœur, c'est ma prière. Viens. Sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux rien faire. Mais si toi, tu viens vers moi, si toi, tu te présentes à moi, si toi, Seigneur Jésus, tu prends ce qui empêche mon cœur, bien, Seigneur, je sais que mon cœur va être libre et j'aimerais que mon cœur soit libre. J'aimerais t'aimer comme tu m'aimes. Un amour, Seigneur, qui est exceptionnel, que toi seul, Seigneur Jésus, peux me donner. Seigneur, c'est le désir de mon cœur ce matin. Peux-tu continuer cette œuvre dans ma vie? Est-ce que tu peux prendre soin des membres de ma famille? Est-ce que tu peux prendre soin des circonstances de la vie qui m'inquiètent présentement ou qui m'empêchent des fois d'être en paix? Est-ce que je pourrais t'en parler, te les confier? C'est le désir de mon cœur, Seigneur. C'est pour ça que je te parle ce matin. Et j'aimerais juste, Seigneur, que tu interagisses avec moi. Seigneur, j'aimerais te prier personnellement aussi pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin et qui se sentent un peu comme pris, soit dans des sorts mouvants, soit sous un fardeau, soit sous quelque chose qui les dépasse. Puis, Seigneur, ils ont de la difficulté ce matin à même penser que peut-être il y a de l'espoir pour eux. Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'eux ce matin. J'aimerais que tu puisses leur montrer qu'il n'est pas trop tard. Leur donner de l'espoir. Leur faire du bien, Seigneur Jésus. Que leur cœur puisse tout à coup voir que tu es là. Et que tu vas prendre soin d'eux. Que tu vas leur donner la victoire, la paix et ce bonheur que toi seul peux apporter à leur cœur. En dépit de tout, en dépit des circonstances, en dépit de tout. Que tu sois leur tout, Seigneur Jésus, le Messie de leur cœur, le Seigneur de leur vie. Merci, Jésus, que c'est toi qui es le grand berger. C'est toi qui es le pasteur des brebis. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Amen.